Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGuayeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec.
Vous entrez maintenant dans la Poche Bleue. La formation de départ, the starting lineup. Le numéro 40, number 40, Maxime Lapierre. Le numéro 84, number 84, Guillaume Latendresse.
Ford, construit avec fierté.
On se retrouve entre deux matchs des Canadiens qui jouent demain contre les Red Wings à Détroit. Salut Guillaume, salut Maxime.
Salut.
Salut Mario.
Est-ce qu'on a le droit d'être critique même si le club est en processus de reconstruction, les gars?
Ah, tu l'as dit, ok. Bon, ben c'est la fin de l'entrevue. Mario vient de le dire qu'on est en reconstruction, oui.
Ouais, il l'a dit.
Il l'a dit.
J'ai entendu, moi aussi.
On l'a eu.
Je peux plus dire, mais... on peut plus dire le mot, non?
Oui, ben oui, c'est okay. juste à temps, Mario. Mais tu sais, hier, Mario, les jeux qu'on a vus, le Canadien était pas prêt, mais les jeux que le Lightning ont fait en début de match, je m'excuse, là, mais t'as bien beau arriver avec les meilleures intentions au monde. Tu sais, les entrées de zone, la vitesse d'exécution, le lancer de Kucherov, je pense que ça a comme fait, bon, ben, ça va être une longue soirée, et puis, tu sais, oui, on a vu qu'on n'était pas de taille à ce talent-là hier. Mais par contre, Guillaume, tantôt, il a mentionné un bon point. On a toujours bien montré un petit peu de caractère en deuxième moitié de match. Puis on aurait pu laisser glisser ça hier à la Sharks de San Jose, puis monter à 10-1, mettons. Là, puis on a géré ça quand même de la bonne façon dans la deuxième moitié.
Parce que Mario, je suis d'accord avec toi qu'on peut critiquer sur la façon de jouer, la préparation, toutes ces choses-là, puis 100% d'accord. Dans la reconstruction, on est pas loin, là. On vient de commencer. Ça fait un an et demi, là. On est dans la deuxième année, tu sais. Fait que, moi, je pense que chaque match, autant de victoires, défaites, on doit être capable de tirer un positif dans l'évaluation. Puis, comme Max vient de dire, hier, il y a du positif. On a eu de la résilience. On est resté dans le match. On a été combatif dans la deuxième. Quand on a changé Allen, on a vu une autre équipe un petit peu plus combative. On a senti un petit quelque chose. Ça nous a amené à 4-2. Si la punition d'Evans arrive pas, on est peut-être à 4-3. On enlève le gardien. On se donne une opportunité. On a été à quelque part dans le match. Fait que pour moi, en ce moment, je veux voir du positif. Je veux essayer de sortir le positif. Hier, c'est ça qui en est retenu. Mais il reste que oui, comme jeune équipe, la préparation, le début de match, peu importe c'est qui l'autre bord, faut que tu sois quand même d'offrir une adversité intéressante.
Ça revient au même point qu'on discute depuis l'été, Mario. T'sais, tu le vois qu'il y a un manque de profondeur. Tu regardes les joueurs du Lightning, tu regardes les joueurs du Canadien. Puis on en parlait à propos de l'avantage numérique et tout ça. On n'est pas de taille, Mario. Oui, on a des beaux joueurs, on a des bons joueurs, un beau potentiel, une bonne défensive dans le futur et ça, mais tu peux pas comparer le Lightning de Tampa Bay au Canadien. Hein?
Est-ce qu'on peut encore comparer le processus dans lequel le Canadien est embarqué à celui des Rangers? Parce que même Gorton l'a fait encore il y a pas longtemps. On l'a dit, oui, je pense qu'on peut faire des comparaisons. Pensez-vous que ça va être beaucoup plus lent que les Rangers ou on peut maintenir la cadence?
Ben, c'est parce que ça, il suffit d'un joueur qui signe comme agent libre, Mario. Puis eux autres, c'était Panarin, si je me trompe
Fox
pas.
Fox aussi.
Fox qui est arrivé un peu de nulle part, mais ça prend un joueur ou deux, ça peut changer grandement la donne. Hein. Tu sais, en ce moment, là, la réalité, c'est qu'on n'a pas de deuxième trio. Le jour où tu réussi à avoir un deuxième trio. Là, cette année, si tu avais un autre, ben, admettons, Dak en santé, puis qui continue sa progression sur le deuxième trio, je pense pas qu'on est en même place, pis on n'a pas les mêmes défaites dernièrement. Là. Je pense que ça change la donne. Si Savard est en santé, tu sais, ça va vite changer une organisation, Mario, quand même. Moi, je suis pas inquiet de la direction qu'on prend en ce moment. Par contre, hier, tu sais, le côté préparation, intensité, j'aimerais avoir un petit peu plus. Tu sais, que ça revient à une discussion qu'on a déjà eue encore une fois. Quand tu regardes un gars comme Pezzetta, tu sais, je sais que c'est un gars de quatrième trio, peut-être talent limité, mais ça paraît que lui, il était affamé hier. Tu sais, il embarque sa patinoire, finit ses mises en échec. J'aimerais ça voir ça d'un Anderson, puis j'aimerais ça voir ça d'une coupe d'autres joueurs.
Là. Ben moi, c'est ça mon point. Là, c'est je suis très, très conscient que je m'attends pas à une victoire nécessairement contre Tampa Bay hier, mais je veux un niveau d'engagement qui est respectable, puis je pas sûr que qu'on a eu droit à ça hier.
Puis gêne-toi pas pour le dire. Gêne-toi pas pour le dire, Mario. C'était pas le style d'engagement que dont tu dois t'attendre d'une organisation de la Ligue nationale de hockey.
Puis Max, si on est cohérent, Guillaume, permets-moi juste une petite seconde. Si on est cohérent, là, tu sais. Là, on dit, ah, ouais, mais on n'est pas de calibre avec Tampa Bay, mais techniquement, on n'est pas de calibre avec Vegas, puis on n'a pas eu le même effort, puis on n'a pas eu le même niveau d'engagement. Fait que c'est là que moi, le début de match hier, il passe serré dans la gorge, là. Tu comprends, Max?
Ouais, et Guillaume? D'accord.
Fait que je veux bien dire qu'on n'est pas de calibre, mais Kim, on peut travailler fort. Si Pezzetta est capable de travailler fort, tout le monde est capable de travailler fort, là.
Ça dépend toujours aussi ce que la situation de l'autre équipe aussi, là. Tu sais, les blessés, est-ce qu'ils avaient joué avec? Tu sais, il y a ces circonstances-là de qu'est-ce qu'on te met d'en face aussi comme équipe. Mais, nonobstant l'autre équipe, on les efface, sont pas là. Il reste que quand même comme organisation, comme équipe, il y a une façon de jouer puis une façon de travailler pour 60 minutes. Qu'on perde 4-0 après 10 minutes hier, on s'en fout si le Canadien performe puis le Lightning sont bons puis ils réussissent à clutcher comme Max dit puis le tir de Kucherov est parfait puis l'entrée de zone est parfaite. Si t'as fait ta job en échec avant, on termine les mises en échec, on se replie puis au final on se fait battre parce qu'ils ont plus d'expérience puis ils ont des joueurs vedettes, ben ça sera ça. Mais là, il y a une façon, pour moi, qu'on a joué 25 minutes hier, 20 minutes, qu'on peut pas accepter dans un modèle de reconstruction. Ce que André Tourigny est en train de faire en Arizona, que l'éthique de travail, l'attitude est là à tous les soirs. Mais Mandy, si l'année 1 de son 5 ans ou 4 ans qui est là, si c'était toujours parfait, l'année 2, c'était comment? Mm-hmm. Fais, descend avec lui aussi. Puis il y en a des soirs où ce que c'est plus difficile. C'est ça, une équipe jeune, c'est de l'inconstance. Fait faut être réaliste là-dedans. Mais c'est notre job de critiquer puis de dire ce qu'on voit. Hier, on s'est pas présenté comme il faut pour le match.
Considérez-vous que les Coyotes sont une organisation en avance sur le Canadien?
Moi, je pense que oui, par rapport à certains joueurs vedettes qu'on a, là. Tu sais, on a des, je pense que Cooley est peut-être en avance sur Slavkovski, mais ça, c'est un autre débat. Mais tu sais, quand tu regardes les Keller des jeunes comme ça, on a beaucoup de jeunes. Puis dans les filets aussi, je pense que c'est Vejdemo, son nom, très solide aussi. Je pense que lui est en avance. Je pense qu'il est en avance sur ce qu'on a. Donc, il y a quelques joueurs peut-être plus talentueux ou plus avancés dans le processus qui rentrent plus loin. Puis, la culture, l'identité est présentée puis est déjà établie pour moi là-bas.
Diriez-vous, les gars, que le marché de Montréal, même si parfois il est difficile, il est exigeant, il est aussi très, très... il est très, très complice parce que les amateurs sont vraiment au rendez-vous. Vous le sentez dans le Centre Bell, les gars, même si vous n'êtes pas nécessairement sur place à tous les matchs, ben, par la radio, par la télévision, et sur place également. Le public présent au match est vraiment embarqué. J'espère juste qu'on s'enlignera pas vers des longues séquences de défaites. Il y a un potentiel, il y a un danger pour ça, là, drette là, avec tout le calendrier qu'on a d'ici la fin de la semaine et la semaine prochaine contre de bonnes équipes.
Ouais, mais là, je veux pas dire que c'est critique, mais c'est le temps de gagner des matchs, par contre, parce qu'on peut l'échapper. Notre saison, on peut la jouer au mois de novembre, là, parce que tu regardes le calendrier, tu regardes la qualité des équipes qu'on va affronter. Il y a peut-être juste San Jose qui est pas une grande équipe cette année, là, dans ce mois-ci, ça va être très difficile, puis il va falloir être prêt. Par contre, le Canadien l'a prouvé dans l'an passé, puis au début de saison cette année aussi, lorsqu'on affronte des bonnes équipes, on semble être prêt la plupart du temps. Là, hier, on l'a échappé, on s'entend, mais on a eu une grande performance contre Vegas, on a eu un bon départ contre Toronto. On est capable de donner des bons matchs, mais ça pourrait glisser. Si on prend pas contrôle de la situation en ce moment, ça pourrait pas ruiner notre saison, mais nous mettre dans le pétrin un peu, là.
Les gars, y a-t-il une façon d'être plus efficace défensivement, d'accorder moins de lancers, peu importe l'âge de ton club? Parce qu'il me semble que c'est plus facile de couper d'un but contre que d'essayer de produire un but de plus par match.
Ouais, c'est tout le temps difficile aussi quand que tu joues un système comme on joue chez le Canadien, serré, où on est un peu, homme à homme. Tu sais, tu te retrouves que quand t'affrontes des joueurs comme Kucherov, qui a un contre un, est capable de se libérer, capable de se faire oublier, quand t'as des Braden Point qui va trouver la petite passe parfaite, quand tu joues un système comme ça, t'as un gars qui dort, ça nuit aux quatre autres. Fait que c'est un système de jeu qui est extrêmement difficile quand que mentalement t'es pas 100%. C'est pas un système de jeu que personnellement j'ai joué. Je pense, Max, tu as joué un petit peu, là. Moi, je l'ai pas joué. Fait que c'est dur de commenter, mais c'est un système pour moi qu'un joueur peut nuire à quatre autres.
Tu sais, Mario, dans le fond, on pense souvent qu'il y a des grandes stratégies dans le hockey. Théoriquement, défensivement, il y a trois systèmes de jeu dans ta zone. Il y a homme à homme, il y a défensif de zone, puis il y a ce qu'on appelle un overload où tout le monde swarm. Un swarm où ce que tout le monde se ramasse dans le même coin puis on essaie
isoler
de bloquer
le porteur du disque.
Ouais, on isole ça puis on met de la pression. En ce moment, je pense qu'on tire un petit peu plus vers le homme à homme. Moi, j'ai toujours cru aux deux autres systèmes. Pourquoi? Parce que tu protèges ton erreur. Tu sais, si un défenseur perd pied ou manque son homme ou peu importe, ben t'as le joueur de centre en arrière. arrière, puis t'as défenseur devant le filet, puis t'as moins d'espace pour manœuvrer en tant que l'équipe adverse. Donc, est-ce que je suis d'accord avec le système de jeu? Je pense que c'est un système comme on joue en ce moment à Montréal. C'est très bon lorsque tes joueurs, justement, c'est des Kucherov, c'est des Stamkos, c'est des Hedman, parce qu'ils vont souvent remporter leur bataille un contre un, puis ils peuvent se permettre une erreur de temps en temps, parce que lorsqu'ils ont la rondelle ou lorsqu'ils la perdent, ils sont capables de gérer ça seuls. T'sais, ils ont le talent pour le faire. Par contre, c'est ce qu'on a choisi pour le Canadien cette année. Mais avant de regarder les X, les O, puis tout ça, je pense que c'est toujours une question d'intensité. Puis hier, je le mentionnais, c'est de jouer avec un bâton pesant. T'sais, on pense souvent qu'une équipe physique, c'est frapper tout le monde à travers la baie vitrée. C'est pas ça. C'est d'être pesant sa rondelle, pas la perdre. Puis Ken Hitchcock l'a toujours dit, lorsqu'on joue à Saint-Louis, la meilleure défensive, c'est la possession de la rondelle en zone offensive. Si à chaque fois qu'il y a un lancer puis un rebond, tu perds la rondelle puis tu reviens dans ton territoire, mais c'est là qu'il faut que tu règles ce détail-là pour être meilleur défensivement, moi, je pense.
Dans un autre ordre d'idée, les gars, avez-vous vu Patrick Roy ces dernières heures?
Moi, je l'ai pas vu, mais je n'ai entendu parler. Il voyage quand même vite, le gars. Il est solide.
Non, mais vous le saviez pas. Je l'affirme ce soir, Patrick Roy, c'est comme le Saint-Esprit. Tout le monde le voit partout. Les gars, ça vous rappelle pas des souvenirs? Hier, il vivait à Canada. Quand on parlait de son nom à Montréal, il avait acheté une maison quelque part. Il avait tout. Hein? On le voit partout, mais sans blague. Pensez-vous que s'il était... Je sais pas s'il y a une chance qu'il soit embauché par Ottawa. Est-ce que ça changerait la rivalité? Pensez-vous qu'il pourrait convertir des partisans du Canadien en des partisans des Sénateurs et on aurait matière à une pas pire rivalité? On s'entend là-dessus.
Mais je pense aussi que le premier point, s'il se présente à Canada, il n'ira pas manger à la cantine à côté de l'aréna. c'est ce que je pense. Mais il reste que quand même, Patrick Roy est polarisant. Peu importe, comme coach, il était polarisant, comme joueur, il était polarisant, comme gars des médias, il était polarisant. Fait que Patrick Roy, il y a un attachement pour ce gars-là, des fans du Canadien, des fans du Québécois et des fans anglais aussi qui le connaissent. Mais à ta question, s'il pourrait convertir, je pense qu'il pourrait faire en sorte que les matchs canadiens sénateurs pourraient devenir drôlement intéressants, pourraient devenir justement une rivalité, pas comme dans le temps, parce qu'on est de la même province canadien-nordique, mais avec les sénateurs, je pense qu'on pourrait avoir une rivalité intéressante de par la distance, de par les organisations, de par le nouveau propriétaire, ce qu'on veut faire là-bas. Oui, Patrick Roy peut changer pour moi l'image des Sénateurs d'Ottawa.
Mmh. Ouais, je suis d'accord que ça amène du piquant dans l'organisation puis tout ça. C'est un bon entraîneur à gagner, puis on n'a pas besoin de parler de sa carrière. Je pense qu'on sait que c'est un bon entraîneur, mais tu sais, pour moi, il reste que c'est encore la même chose un peu qu'on a vécu à Montréal. Les Sénateurs d'Ottawa, ils ont plusieurs candidats en tête. Ça s'arrête pas à Patrick Roy parce qu'on l'aime, puis on sait que c'est une légende avec le Canadien de Montréal, puis qu'on veut voir tout un show entre la rivalité Montréal-Ottawa. Il y a une liste de candidats, puis lorsque tu rencontres un entraîneur, je pense que d'une certaine façon, le nom vaut moins que le plan. Tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mm-hmm. C'est bien beau, c'est Patrick Roy, tant mieux, mais je pense plus que t'évalues l'ancien joueur. Là. T'évalues vraiment, on prend quelle direction comme organisation, puis il y a d'autres très, très bons entraîneurs. Il restera à voir ce qu'on va choisir du côté d'Ottawa, mais c'est sûr que ça serait un bon fit.
Il n'y a aucun doute là-dessus. On est avec Maxime et Guillaume. Comme tous les mercredis, La Poche Bleue Radio, on est de retour après ces quelques messages.
La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Ford, construit avec fierté.
Il y a des équipes qui ont des débuts de saison beaucoup plus difficiles que bien d'autres. Beaucoup plus difficiles que le Canadien, par exemple, malgré le fait qu'ils viennent de coller 4 défaites. Les Flames de Calgary ont gagné hier. L'entraîneur Ryan Huska a cloué Jonathan Huberdeau au banc en disant qu'il avait l'impression qu'il avait pris une soirée off, une soirée de congé. Son équipe a marqué 3 buts dans cette troisième période. Qu'est-ce que vous pensez de la déclaration à l'endroit d'Huberdeau qui réagit aujourd'hui sans rajouter d'huile sur le feu en disant « j'ai juste à être meilleur, c'est 20 minutes dans ma carrière » et du fait aussi que le club a réagi à cette décision-là du coach en marquant des buts?
Oui, mais ça arrive, Mario. Je pense que souvent, lorsque c'est un joueur étoile avec un gros contrat, ça crée un certain drame à l'interne. Mais on l'a vu, hein, John Cooper a su Kucherov il y a quelques années en troisième période. Il y a eu une réaction de sa part. L'équipe a remporté des Coupes Stanley. C'est un grand message quand même pour les coéquipiers. Ce que j'ai aimé dans tout ça, deux choses. Jonathan Huberdeau s'est levé lorsqu'on a marqué le but gagnant. Célébrer avec les joueurs sur le banc. Puis j'ai aimé les commentaires de Coleman puis un autre joueur des Flames qui disait que Huberdeau, il est là, c'est un bon coéquipier, c'est pas lui qui va faire la baboune, il nous encourageait pareil, puis on le sait qu'il va s'en sortir. Donc, quand t'as ces commentaires-là de joueurs vétérans, ça veut dire que c'est une question de temps, il va s'en sortir.
Moi, ce que j'aime là-dedans, Mario, puis on en parle avec le Canadien, de la philosophie, de la culture d'entreprise qu'on veut avoir, la façon de jouer de l'Arizona. Moi, je trouve que c'est des nouveaux coachs qui rentrent dans des organisations qui veulent placer leur chaise. Tu sais, on disait souvent, là, puis on entend ça, là, les joueurs vedettes, il y a des traitements différents, hein, puis faut faire attention parce que tu veux pas le perdre ton vestiaire parce que lui a un contrat de 8 ans, toi, t'as un contrat de 2, fait que faut, tu sais, on a entendu ça pendant combien d'années, mm-hmm. puis là, on semble vouloir mettre des nouveaux entraîneurs, des jeunes. On le voit, là, Pascal Vincent arrive à Columbus, qu'est-ce qu'il fait? Johnny Gaudreau joue pas comme il veut, il l'assoit sur le banc. Oscar à Calgary, Huberdeau est probablement dans les plus hauts salariés de l'équipe, l'assoit sur le banc. Max l'a dit, John Cooper, Kucherov sur le banc. Mais c'est ça la réalité, tu dois rendre tes joueurs vedettes, imputables de leur rôle, puis du statut qu'ils ont dans le vestiaire, puis de les rendre à jouer à la façon que tu veux. Pis je pense que c'est la beauté qu'on réussit là-dedans. Puis après ça, c'est à Jonathan Huberdeau de répondre. Tu sais, s'il se retrouve avec un contrat à long terme, avec l'argent qu'il a, puis les statistiques qu'il a faites avant, il les a pas inventées, là, ses 115 points dans la Ligue nationale. Là. C'est un joueur vedette de la Ligue. Là. Ben, c'est à lui à se retrouver, puis à emmener son jeu à un autre step, puis être capable d'emmener les Flames de Calgary en séries éliminatoires.
Tu sais, je regarde sa carrière, je regarde les statistiques, tu parles de 115 points. C'est sûr que les dernières années en Floride, là, il produisait pas à peu près, il était bien entouré également, il y avait une belle chimie avec Barkov, tu sais, 92 points en 2018-19, 78 points par la suite en 69 matchs, toutefois, 61 points en 55 matchs, 115 en 80, mais ça avait été long à décoller. Est-ce que c'est son environnement qui est plus le même ou c'est lui qui... Est-ce qu'on attend des choses que... J'ai de la misère à comprendre, il doit y avoir un problème. Les gars, un gars peut pas chuter de production de moitié comme ça, puis qui joue comme avant. Là.
Ben, premièrement, je pense, Mario, c'est une question d'étape à suivre. Là, il est arrivé d'une nouvelle organisation, puis s'est fait détruire par son ancien coach. Ça, c'était la première excuse. Après ça, il faut toujours bien que tu t'en remettes. Là. T'sais, c'est pas le coach part, puis l'autre entre, puis là, de la confiance revient. Il y a eu une job de destruction qui s'est fait, puis là, il va recommencer à reconstruire sa fondation, puis ça peut prendre du temps à se remettre de ça. Là. Ben oui, c'est certain. Là. Hey, Mario, quand...
Tu penses qu'il a été profondément affecté sa dernière année?
Oui, oui. Moi, je pense que quand ta job, c'est d'avoir une vision du jeu, puis ça se passe avec la rondelle, où tu dois être confiant à 100%, puis tu as tout perdu ça. Écoute, ça revient pas demain matin. Là. Ça prend du temps à reconstruire ça.
Puis oublie pas aussi que Oscar, là, qui est le nouvel entraîneur-chef, ça fait depuis 2018 qu'il est là à Calgary. Fait tout ce qui s'est passé l'an passé avec Sutter, Huberdeau ne sait pas à quel point il était impliqué pis à quel point il était d'accord. Puis je suis 100% d'accord avec Max que de te faire détruire la confiance de même quand t'as un gars offensif qui doit prendre des risques, qui doit prendre des chances, qui doit essayer certaines choses pour réussir des jeux, ben ça devient difficile des fois quand tu te fais tout enlever ta créativité. Puis là, il faut que tu rebâtisses tout ça. J'ai hâte de voir la façon qu'on va utiliser Huberdeau lors du prochain match, puis sa réponse à lui aussi là-dedans, là. Mais ça peut être long quand même.
On parle beaucoup de culture dans toutes les organisations professionnelles. C'est le mot, là, on dirait, de la nouvelle génération. Quand Martin Saint-Louis dit qu'il veut amener, c'est pas la première fois qu'il le dit, là, mais qu'il veut amener la culture du Lightning de Tampa Bay avec le Canadien de Montréal, croyez-vous que c'est possible? Est-ce qu'on peut développer un club dans un marché? Bon, la taxation est différente, la pression des médias, la couverture, etc. Pensez-vous que le Lightning aurait pu se développer à Montréal comme il s'est développé à Tampa? Puis pensez-vous vraiment qu'on peut transposer une culture qui vient d'une autre équipe dans un autre marché, dans une autre équipe?
Regarde ça en ce moment, Mario, à Tampa Bay, la plupart des vedettes, c'est repêché. C'est pas des agents libres. Tu penses à Stamkos, tu penses à Kucherov, penses à...
Dans ce sens-là, OK.
Ben, ils ont bien repêché, c'est aussi simple que ça. C'est pas des... Kucherov, c'est pas un choix de première ronde, là, si je me trompe pas. Là.
Mais quand je pense à la culture, je pense peut-être plus à l'ambiance, au climat qui règne dans une organisation, mais oui, ça en fait partie, Maxime.
C'est sûr, Mario, que Montréal est un marché autant qui peut être très bon, autant qui peut être quand même difficile. Il y a certains soirs où... Puis tu sais, moi, je l'ai réalisé quand je suis parti de Montréal, puis je suis arrivé avec le Wild, je pense le premier soir, j'ai été -2. Personne ne m'a parlé de mes statistiques. Personne n'en a mis dans le journal, puis personne n'a mis ça à la télé. Fait que c'est complètement différent. À Montréal, -2, ça aurait été aux amateurs de sport, dans le journal, à 110%. Ça aurait été partout. Fait que la réalité est complètement différente pour les deux équipes. C'est dur de transposer la latitude, la légèreté que la Floride peut offrir à que Montréal n'a pas.
C'est ça, mon
mais
point.
Aussi, les partisans du Canadien, quand ils sont là, puis quand tu joues de la bonne façon. Tu sais, les gars adorés de Montréal, là, c'est Lapierre, c'est Bégin, c'est Bouillon, c'est ces gars-là qui sont ceux qui les bottent de travail tous les soirs, puis qui y vont. Mais c'est ça, si tu réussis à emmener cette culture-là ici, mais tu vas avoir du succès, c'est certain.
Tu sais, tu penses au développement de Vincent Lecavalier pendant ses premières années en Floride, tu sais, versus Slafkovski ici à Montréal, ou si Vincent s'était développé à Montréal. C'est là que je me demande si, oui, je crois à la philosophie du repêchage. Par contre, je pense qu'un atout du marché de Montréal, puis vous qui l'avez vécu, peut-être vous avez une vision différente de ça. Moi, je pense que le marché de Montréal, bien qu'il use puis qu'il est parfois exigeant, où tout est scruté à la loupe, j'ai l'impression que le marché soutire le maximum des joueurs, parce que, justement, tu peux pas t'endormir. Si tu prends des soirées off, t'es pas en Floride, t'es pas au Minnesota, où personne va te parler d'une soirée ordinaire. Votre opinion là-dessus en conclusion, les gars, ce soir?
Ben, Mario, ça revient à ce qu'on discutait en entrée de jeu, c'est qu'il manque de joueurs vedettes. T'sais, je sais que le marché, ça change beaucoup de choses, mais quand t'as un joueur vedette qui est capable de prendre contrôle de la situation à lui seul, puis d'aller marquer 2-3 buts, puis tu viens de remporter une grosse game dans un gros marché, ça fait combien d'années qu'on n'a pas eu une super vedette à part Carey Price? T'sais, pense-y comme faut, là. Quelqu'un qui décide à soir, moi j'en marque 2, j'ai 2 buts, 2 passes, puis on vient de gagner 4-3, puis merci, puis là personne parle des erreurs des autres joueurs. Kovalev. Ça fait longtemps, là.
Kovalev. C'est la dernière fois, je pose la question à part Carey, oui. Et donc, il faut reconnaître que si le Canadien veut rattraper, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va prendre une acquisition qui vient de l'extérieur du repêchage, ouais. Et maintenant, si on veut se battre avec les meilleures équipes dans l'Est, là.
Ça prend une super vedette, puis il va falloir se mettre dans la tête à un moment donné qu'il va falloir payer plus cher pour l'avoir, parce que c'est de là que ça part. Ça prend une super vedette, Mario, pour gagner la Ligue nationale.
Ça va prendre un gardien numéro 1, ça va prendre une super vedette, puis ça va prendre un défenseur aussi qui peut contrôler l'avantage numérique jusqu'à temps que Cotson nous montre ce qu'il peut faire si vraiment c'en est un. Il en reste encore du stock à faire. Fait
du mélange en masse, hein?
C'est ça. Mettons nos briques, là. On bâtit nos briques de fondation, là. Puis après ça, on montera à la maison.
J'ai hâte de voir combien de briques sont là, ne seront plus là quand le Canadien va être une équipe du premier tiers de la Ligue ou du top 6-7, là. D'après moi, les briques ne seront plus les mêmes.
Ben, je pense qu'en ce moment, on n'a pas plus que 8 briques qui vont être là pour le moment où on va avoir du succès.
OK. Intéressant. Ça aurait de l'allure, donc pas mal autour du noyau, puis il y aura des surprises. Ben les gars, un gros merci pour cette autre belle édition de la Poche Bleue Radio ce mercredi. Bonne soirée de podcast à vous deux et à vos invités.
Merci Mario.
Et à bientôt. Salut les gars.
Salut, bye.
Merci.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Très content d'avoir l'occasion de le recevoir à l'émission ce soir. Lui qui a vécu sans aucun doute de belles émotions au cours des dernières heures quand il a appris de la bouche même de l'entraîneur des Sacs-d'Inde de Chicoutimi et qu'il a connu à l'époque comme entraîneur, même quand il jouait, que son chandail des Sacs-d'Inde allait être retiré. Nul autre que David Desharnais qui est avec nous ce soir. Bonsoir David.
Bonsoir Mario.
Comment ça va? Comment t'as vécu ce moment-là?
Ah, très beau moment. Je suis encore un peu sous le choc de qu'est-ce qui est arrivé, mais écoute, super content, super heureux, très ému. Un beau geste de la part des Saguenayens, puis je l'apprécie bien gros.
Tu t'en attendais pas une minute?
Non, honnêtement, pas du tout. Là, je sais pas, c'est pas quelque chose à laquelle je pensais vraiment pas. Ils m'ont comme invité à aller à la game, mais tu sais, c'était pas non, viens faire un tour, puis c'était disponible, t'es disponible, sinon pas de problème. Tu sais, c'était pas viens absolument, puis viens toute seule ou peu importe. Donc c'est pas des choses à laquelle je pense présentement, puis je me suis laissé bien surprendre.
Ben, je comprends. Donc, de vivre ça avec tes enfants, avec ta conjointe, ça devait être encore plus spécial aussi, là.
Oui, absolument. Les deux étaient là. Mes deux enfants, ma conjointe, comme tu l'as mentionné. Donc, c'est le fun de pouvoir partager ça avec mes enfants. Je les ai eus sur le tard. Puis, je suis bien content de pouvoir un peu leur montrer, même si... je sais même pas s'ils vont s'en souvenir quand ils vont être
confusés. C'est quoi tes plus beaux souvenirs de Chicoutimi, David?
Il y en a tellement, mais tu sais, premièrement, quand tu arrives là-bas, t'es tout jeune, t'arrives, t'es un adolescent, tu ressors de là, t'es comme un adulte. Donc, pour moi, ça a été une super belle époque. Il y a plein de choses, toutes les saisons que j'ai eues là-bas, c'est sûr que les premières fois dans chaque chose ou dans chaque ligue, pour moi, sont super importantes. Fait que c'est sûr que je me souviens de ça. La fois qu'on a éliminé les Remparts en playoff, ça a été un super beau moment aussi. Affronter les Sidney Crosby, toutes les vedettes qui ont monté aussi, ça c'est toujours impressionnant quand t'es dans le junior. Donc tous ces petits moments-là sur tout le cheminement à Chicoutimi.
T'as été coaché par Yannick Jean, qui est encore là aujourd'hui. T'as été coaché par Richard Martel également à l'époque, qui avait un style peut-être un peu plus coloré encore. Des souvenirs particuliers avec tes entraîneurs?
Ah, ça c'est certain, il y en a plein, c'est sûr. Ben, je parle de Québec quand on les a éliminés, mais Richard contre Patrick, c'était toujours très animé. Les batailles générales, les batailles, ma première bataille, on perdait 8-0 contre ma première et ma dernière bataille, on perdait 8-0 contre les Remparts, puis Richard était pas trop content, nous aussi d'ailleurs, mais j'avais essayé de créer un petit quelque chose en allant me battre. Pas la meilleure idée que j'ai eue, mais bref, non, on avait, tu sais, c'est ça, Richard, c'était un caractère spécial, mais somme toute, il a été bon pour moi, il me faisait jouer, puis il a donné des très bons moments à cette organisation-là.
Hey, t'as joué puis t'as produit pas à peu près 262 matchs en saison régulière, 374 points. Là, il va falloir que tu t'habitues à des hommages ou des honneurs comme celui que tu viens de recevoir. Quand on a eu une belle carrière comme la tienne, puis qu'on prend sa retraite, il y a des risques que ça arrive. Et là, c'est le premier honneur du genre que tu reçois, David?
Ben, le Midget 3 l'avait fait, le commandant de Lévis l'avait fait à l'époque que je jouais encore avec le Canadien. Alors, j'avais trouvé ça super aussi, mais je sais pas, on dirait que justement, quand la carrière est finie, des fois, ben, tu te fais plus oublier, justement, donc c'est pour ça que je m'en attendais peut-être moins. J'imagine quand tu joues, ben, c'est peut-être, des fois, ils sont portés plus à le faire quand tu joues, donc je sais pas, c'est pas des choses à lesquelles je pense, puis souvent dans le moment présent, quand je joue, puis je pense pas à des choses comme ça, donc... Peut-être que ça, mais je veux dire, après le junior, là, il y en aura. Je pense qu'il n'y a pas trop d'organisation après ça qui peut retirer mon chandail.
T'as terminé ta carrière en Suisse. T'es allé faire une visite à Fribourg-Gotteron en 2012-2013 pendant le conflit de travail. C'est là que t'as fini ta carrière après une année en KHL avec Bob Hartley. Donc, 2022-2023 auront été tes derniers moments. C'était quoi le signal que c'était terminé pour toi? Comment t'as senti que c'était le temps d'accrocher, David?
Premièrement, les enfants. J'avais toujours dit que quand mon plus vieux allait avoir 6 ans, première année, je pense que c'était le bon moment d'arrêter. Pas l'étirer trop, pas avoir de blessures. J'ai été quand même chanceux dans ma carrière de pas avoir trop de blessures. J'étais encore en bonne forme physique. Puis pour moi, l'important là-dedans, c'était vraiment de finir ça à mes termes. Donc, je voulais pas me faire repousser par une équipe. Je voulais pas me faire dire que j'étais plus assez bon. Je voulais profiter de chaque moment dans ma dernière année, sachant que c'était ma décision. Puis j'étais capable de le faire avant l'année dernière, de dire à mon entraîneur DG que c'était terminé. Puis c'est ça, de pouvoir profiter de chaque petit moment, puis de pas dire dans l'année, ah ben là, je re-signe-tu, ça va pas bien, ça va mal, qu'est-ce qu'on va faire, tout ça. Je voulais vraiment profiter parce que ça va vite. Puis quand t'es dedans, tu profites pas assez. Je voulais absolument que ce soit comme ça. Puis, je pense que c'était la bonne décision.
Ce qui t'a pas empêché de terminer au premier rang des pointeurs de ton équipe avec 42 points en 52 matchs avec, justement, l'équipe de Fribourg. Quand tu repenses à l'ensemble de ta carrière, il doit y avoir tout un film qui défile dans ta tête. Tu parlais des Commandeurs de Lévis, ensuite les Saguenay, Chicoutimi, les Bulldogs, la Ligue américaine, les Cincinnati également. Où as-tu, la Russie, garde, j'en passe, mais où as-tu vécu tes plus beaux moments dans le hockey? C'est sûr que j'imagine que d'entrée de jeu, tout le monde dit, ben, c'est sûr que ça doit être le Canadien, mais je te pose la question de façon ouverte parce que des fois, je suis surpris par les réponses.
Mais moi, oui, c'est sûr que le Canadien, il n'y a pas, de meilleure place pour jouer, mais en regardant ma carrière, ou je vais juste comparer ça peut-être à quand tu gagnes, c'est que c'est tout le petit cheminement, les hauts, les bas, toutes les petites places, toutes les petites choses que toutes les places t'ont apportées. Pour moi, c'est ça qui fait la carrière. Tu sais, il n'y aurait pas juste le Canadien. Tu t'arrives demain matin, tu fais juste jouer pour le Canadien, puis après c'est fini. C'est comme, c'est le fun, mais c'est pas ça le c'est pas ça le plus trippant. Le plus trippant, c'est de justement, t'as des up and down, t'es à Cincinnati, tu t'es rappelé, après ça Hamilton, après ça le Canadien, après ça, tu t'es échangé, puis là-dedans, il y a plein de hauts puis de bas, puis après ça, ben, tu t'en vas en Europe, puis là-bas, ils continuent à en avoir, puis tu voyages, tu pars avec ta famille, tu reviens, c'est une grind interminable, puis quand t'es fini, tu t'en ennuies, mais c'est tous les petits moments avec chaque équipe qui font en sorte que j'arrive avec tout ce bagage, ces cicatrices, c'est toutes ces petites choses-là qui font en sorte que quand je regarde ma carrière, que je suis fier puis que j'ai tout donné.
Ben je comprends donc, et je me rappelle encore de Jacques Martin qui te qualifiait de guerrier à l'époque où il y a encore des gens qui doutaient de toi peut-être comme un gars qui pouvait s'imposer dans la Ligue nationale, puis j'avais bien aimé qu'il utilise ce qualificatif-là parce qu'on te voyait davantage comme un producteur de points, mais un producteur de points qui a l'étiquette de guerrier, c'est pas banal. Il y en a beaucoup pour qui le premier match dans la Ligue nationale, c'est un souvenir évidemment qui laisse des grosses empreintes. Y as-tu rêvé tout le long de ton cheminement à la Ligue nationale, quand tu étais avec les Commandeurs, quand tu étais avec les Saguenayens? Veux dire, tout ce que tu faisais, c'était-tu l'objectif ultime?
Ben c'est sûr que la big picture, comme on dit, c'est sûr que oui, mais en même temps, non, moi, à chaque fois que j'étais dans un calibre, mon but, c'était de monter dans l'autre calibre. Donc, dans le Midget 3, pour moi, l'autre step, c'était la Ligue junior majeure du Québec. Puis là, ben, c'était ma Ligue nationale. Puis après ça, ben, OK, ben, peut-être, on verra, mais là, ben, la East Coast, c'était pas dans le plan.
Mais ça a été toute une année pareille, David, quand je regarde ça.
C'est ça. Ben, ça a été probablement la meilleure chose qui m'est jamais arrivée. Fait que tu sors du junior, tu es dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On dirait que quand tu tournes pro, je sais pas si c'est encore comme ça, mais c'est comme si tu as fait 100 points, tu ne fais pas prendre au sérieux parce que ben, c'était dans la Ligue junior majeure du Québec, mais quelqu'un qui fait 90 points dans la Ligue de l'Ouest, c'était un king. Alors, quand tu arrives au professionnel, on dirait qu'il faut que tu... Si tu fais là beaucoup de points dans le niveau professionnel, là, les gens vont plus te respecter. Puis l'année à Cincinnati, là, j'ai réussi à faire 100 points. J'étais le seul dans la Ligue à le faire. On a tous gagné.
106, pour être précis. Puis 33 en séries éliminatoires. 9 buts, 24 passes en 22 matchs. T'étais une machine.
Non, c'est ça. Puis c'était comme un commitment de ma part aussi parce que il y a plein de gars qui arrivent. Puis là, ben, t'arrives là à 21 ans. Puis ça a comme été, ben là, qu'est-ce que je veux faire vraiment? Là? Est-ce que je veux juste être ici pour être ici, parce que je peux être ici longtemps, jusqu'à 30 ans, puis sans dénigrer les autres qui étaient là, mais pour moi, j'étais comme, moi, je veux pas rester ici. Alors, tu sais, j'allais à la patinoire en presque le premier, j'étais le dernier sorti, je faisais juste ça, je mangeais du hockey, mais ça a été quand même une pilule difficile à digérer, de dire, je m'en vais dans East Coast quand que, comme j'ai dit, c'était peut-être pas ça le plan. J'avais pas vraiment de plan de toute façon, mais c'était pas ça le plan de dire, après mon junior, je m'en vais dans East Coast. C'était plus Ligue américaine. Mais bref, ça a été une super belle année pour moi qui m'a propulsé, là, à avoir du succès dans l'autre ligue qui était la Ligue américaine. Puis c'est seulement dans la Ligue américaine, quand j'ai eu Guy Boucher qui m'a dit, hey, tu t'es fait rappeler pour un match ce soir, puis vas-y, tu t'en vas pas jouer du piano, là, tu t'en vas jouer au hockey, sois pas nerveux, t'as fait ton travail, t'as fait tes devoirs, ça va bien aller, puis profite-en. Puis c'est à ce moment-là vraiment que j'ai commencé à y croire.
Bon, écoute, tu me donnes le frisson juste de me conter ça, ça doit être tout un souvenir dans ton cheminement, là, que cet appel-là, puis t'avais toute une saison avec les Bulldogs, notamment, 78 points cette année-là, et de le jouer ton premier match, est-ce que c'est un gros souvenir dans toute ta carrière dans la Ligue nationale? T'en as joué 524 en saison régulière, j'imagine que c'est pas le seul, mais le premier match, a-t-il eu une saveur particulière?
Ouais, il y en a eu une. Je suis parti en limousine de Hamilton jusqu'à Pittsburgh. Je suis arrivé en retard, les gars m'attendaient. Je suis arrivé avec ma poche dans l'autobus, c'est ça, tout le monde m'attendait dans l'autobus, alors j'étais un peu gêné d'arriver. Je savais que, en fait, ça a été juste une belle partie. Je savais que je jouais pas ma carrière non plus. J'ai joué, je pense, 8 minutes là maximum dans ce match-là. Puis tout de suite après le match, je me faisais déjà descendre, mais c'est vraiment spécial d'arriver dans la grosse ligue, puis il y a vraiment un gros step là.
Ton premier match à Montréal ou ton premier but en carrière, t'en souviens-tu?
Oui, oui, à Montréal, c'est contre Marc-André Fleury. Déviation d'un lancer de piqué, ça, c'est sûr que ça, c'est des détails qui sont gravés dans ma mémoire à jamais.
Ouais, t'as pris le contrôle de ta destinée. Tu sais, on entend souvent ça, les organisations un petit peu remettre la pression sur les joueurs en ce sens que c'est difficile de prédire qui va devenir quoi, le premier choix, puis ouais. Le gars qui est porte-pêche, etc. Fait que je trouve ça tellement inspirant. Ton parcours, c'est une belle histoire à raconter que ta carrière. En es-tu conscient? Je pense pas que pendant que tu le vivais, peut-être que t'avais pas cette perspective-là sur ta carrière, mais maintenant là que les patins sont accrochés, puis tu peux commencer à regarder en arrière là. Es-tu conscient de ça? À quel point c'est inspirant?
Oui, ben j'imagine. C'est sûr que, comme tu dis, quand tu es dedans, on dirait que tu peux pas regarder le bateau passer puis pas embarquer dedans. Alors, pas des choses à lesquelles tu t'arrêtes. Une fois que c'est fini, une fois qu'il y a des petits gestes comme ça, des chandails retirés, des entrevues après, puis là, tu parles de ta carrière pour la première fois que tu dis c'est fini, ben tu réalises un peu, mais en même temps, moi, il y en a eu d'autres. Tu sais, un gars comme Martin Saint-Louis, tu sais, il était tout petit. C'est sûr que j'en ai eu. Puis si il va en avoir d'autres après, puis si je suis un de ces gars-là qui a juste un ou deux petits gars qui regardent puis qui veulent être comme moi, ben tant mieux.
Nous sommes en conversation avec David Desharnais, cet ancien des Canadiens dont le chandail sera retiré à Chicoutimi. Et on revient pour la suite de l'entrevue après ces messages.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Nous voilà de retour avec notre invité ce soir, David Desharnais. David, ton plus grand moment en carrière, je t'ai parlé de tes premiers moments, mais ton plus grand moment, t'sais, les moments là vraiment inoubliables que t'as vécu, soit avec les Canadiens ou ailleurs, parce que t'as quand même poursuivi par la suite avec les Oilers d'Edmonton et les Rangers de New York. Peux-tu en identifier?
J'en ai deux, je dirais, à grande échelle. C'est dans la même année, quand on a battu Boston pour aller en finale de conférence. Puis dans cette même année-là, mon début de saison qui était pas très, très bon, je n'ai signé mon contrat. Puis personne, justement, encore une fois, donnait cher de ma peau. Puis j'ai été capable de m'en sortir pendant toute l'année. Puis à la fin de l'année, ben tout le monde, même le GM était comme un peu surpris que j'ai été capable de me sortir de ça en 2013-2014. Donc cette année-là, pour moi, a vraiment été... vraiment spécial du côté personnel parce que, ben, c'est ça, encore une fois, il y a personne qui croyait encore en moi, puis j'ai été capable de prouver le contraire. Donc, pour ça, super content de cette année-là.
Où allais-tu chercher cette force de caractère-là de pas te laisser écraser ou étouffer par la pression, les attentes ou par le doute, David?
Ben, c'est une super bonne question. En fait, je sais même pas, mais... Je pense que c'est juste de te remettre dans un soulier, justement, quand tu étais plus jeune, puis de dire, regarde, il y a personne qui croyait en moi à ce temps-là. Puis là, maintenant, il y a personne encore qui croit en moi. Alors, va juste là, amuse-toi. En fait, c'est quoi le pire qui peut arriver? Ben, ouais, le pire qui peut arriver, c'est que je retourne mon terme dans la Ligue américaine, puis je continue à jouer. Ça serait pas si pire que ça. Il y a personne de mort, puis essaie de t'amuser là-dedans. C'est niaiseux, mais c'est sûr que facile à dire là, mais en même temps, c'est ce que je dis, mais j'ai pas vraiment la recette au succès non plus.
Ben en tout cas, l'abandon ou comment dirais-je, ils disent en anglais failure was not an option. Là, toi, l'échec n'était pas envisageable.
Hein,
d'une certaine façon, puis c'est ça du caractère de pas vouloir mourir, de pas vouloir se laisser écraser au sens figuré, bien sûr, là, quand je dis ça. Puis ça a dû être tough par moment. Puis d'ailleurs, j'en ai rigolé une claque parce que je pense que je sais pas si tu l'as encore, mais t'avais un compte Twitter. Je pense que t'as tweeté deux fois dans ta vie. Puis ouais. La première fois, c'était en réaction, je pense, à Denis Coderre qui disait « Ah ouais, dans la Ligue américaine. » Puis la deuxième fois, c'est quand Denis Coderre a perdu son élection puis tu avais souhaité une bonne continuation.
Exact.
Ah, tu m'as fait rire.
Faut juste être patient, ouais. Faut juste être patient dans la vie. La roue tourne, puis souvent, on est capable de se revenger à l'amiable, bien entendu.
Bien sûr. Je sais que c'était pas méchant, mais je trouve que c'était tout à fait de bon ton. Hey, écoute, quand t'étais au centre des critiques, t'as le droit de parole, toi aussi, mais jusqu'à quel point, j'ai déjà eu connaissance d'une entrevue où ton père parlait avec beaucoup d'émotion de ton séjour à Montréal. Jusqu'à quel point, là, au-delà de ta réussite, le test que t'avais au quotidien, ben, presque de te prouver, jusqu'à quel point ça t'as trouvé ça tough. Même Patrick Roy, là, qui est un des grands, m'a dit de son séjour à Montréal que Montréal, ça use. Puis je veux pas te mettre des mots dans la bouche, mais toi, comment non, tu l'as vécu?
Non, c'est effectivement. Moi, j'aurais toujours voulu justement parler avec un ancien ou des gars qui ont vécu ça, parce que il y en a pas beaucoup qui savent de comment ça peut se passer, comment ça use sur même la famille, tu sais, je pense que pour nous, c'est difficile. Pour la famille, des fois, c'est encore pire parce que les gens, ils viennent pas s'adresser à nous, mais ils viennent s'adresser à notre famille. Puis, des fois, c'est sans être super négatif, mais c'est que ça use aussi ça, eux. Donc, non, ça a été super difficile, les hauts, les bas, mais en même temps, c'est ce qui fait la beauté de la chose. Ça a été des super moments. Puis je change pour rien au monde, mais c'est certain que c'est pas un marché qui est facile, mais c'est ce qui fait la beauté.
Ouais. As-tu le temps d'apprivoiser ou connais-tu l'équipe? Suis-tu l'équipe un peu? Regardais-tu le hockey à distance, même en Suisse, ou tu commences à reconnecter avec la Ligue nationale puis le Canadien?
Ouais, ben je commence à reconnecter. C'est sûr qu'en étant en Suisse avec le décalage horaire, c'était pas facile nécessairement de regarder les matchs parce que t'es déjà 1h, 2h du matin quand les matchs commençaient. Donc, j'avais pas vraiment le temps. Je pouvais regarder les highlights. Mais là, disons, vers 7h, on s'assoit puis on peut plus regarder un peu le match. Donc, non, c'est le fun de regarder ça d'un œil de fan, de pas se comparer, de pas dire « Ah, je joue contre eux autres dans 2 jours ». Ça, c'est sûr que c'est plus facile de juste regarder ça puis d'avoir du plaisir.
Ouais. Te vois-tu faire autre chose dans le hockey, David? Rôle d'entraîneur, je sais pas, dans le développement, ou tu penses que c'est vraiment terminé et t'as d'autres choses à vivre?
Je sais pas. Je prends l'année qui s'en vient pour me poser ce genre de questions-là. De toutes les personnes à qui j'ai parlé qui ont pris leur retraite. Le gros conseil que j'ai eu, c'est prends un an. Prends le temps de revenir, prends le temps de t'installer, prends le temps d'être avec ta famille, puis laisse les choses venir à toi dans un sens, puis pose-toi les questions de qu'est-ce que tu veux faire, puis c'est ce qu'on a décidé de faire pour cette année.
Es-tu encore en contact avec ton ancien ailier, probablement tes préférés, Max Pacioretty, sur qui tu l'as mis sa palette à tant de reprises?
On se parle de temps en temps, pas beaucoup. Je sais qu'il y a eu une grosse opération. Justement, je croyais qu'il allait être prêt pour le début de saison. Faudrait bien que je lui demande qu'est-ce qui se passe, mais je vais continuer de faire sa carrière quand il va recommencer à jouer très bientôt.
Une coupe de petites vites, David. Est-ce que tu as eu un entraîneur préféré ou tu pourrais considérer qu'un entraîneur a eu un gros impact, peut-être plus que d'autres, sur ta carrière?
Ah, j'en ai quelques-uns. C'est sûr que au hockey mineur, ils savent déjà ils sont qui. Mais si je disais Guy Boucher, il a vraiment été extraordinaire pour moi. Vraiment, je l'ai adoré. C'est lui qui m'a fait vraiment croire en moi, puis qui me donnait les outils nécessaires pour passer au next level. Puis je l'ai eu dans mon next level, c'était la Ligue nationale. Alors, j'ai été chanceux, ça a été un super bon timing. Puis Bob Hartley a été, je l'ai adoré aussi en Russie. Il a été outstanding. J'ai beaucoup appris de lui, puis ça a été un coup de cœur comme entraîneur.
Ouais. Ton but le plus important dans le hockey? Ou ta passe, tiens, je vais élargir, ou ta passe, parce que t'as fait compter des buts à ben du monde aussi, tiens. J'élargis le spectre.
Je veux dire, ouais, OK. Ben, pour ça, je dirais à Boston, quand justement, game 7 à Pacioretty, on est deux, un petit revirement, 2-1, game 7, c'est le but gagnant. Tu sais, je me suis toujours fait dire, tu peux lancer plus souvent, mais tu sais, des fois, game 7 comme ça, tu dis, ah, faudrait que je lance, puis j'ai fait la passe, puis on a marqué, donc, ouais, j'étais bien content de celle-là.
la plus belle gang de boys que tu as eu dans une équipe dans toute ta carrière? Là où tu as eu le plus de fun, finalement, à travers le hockey? C'est sûr que quand on gagne, ça aide, là, mais de façon générale.
À Chicoutimi, c'est sûr que c'était dur à battre. On n'est pas encore professionnel. Puis je dirais aussi en Suisse, parce que tu sais, dans le hockey professionnel, c'est difficile. C'est la victoire. Il y a des gens qui sont parents. Il y a des... donc ça a été, puis j'en ai eu des belles partout là, tu sais, c'est pas pour dire rien de personne, ça a été des années extraordinaires à chaque année, mais j'ai vraiment eu du plaisir en Suisse, peut-être aussi parce que j'étais rendu dans un point dans ma carrière où est-ce que j'étais plus relax, puis je pouvais avoir plus de fun, puis ça, j'étais moins couteau entre les dents. Puis un peu la même chose junior, c'est que tu t'amuses, t'as vraiment des bons copains, puis tu vas à l'école, tout ça, donc pour moi, ça a été, peut-être les deux meilleurs.
Je veux pas abuser, une petite dernière, puis avec, j'entends un peu le son des enfants, puis c'est beau la vie, les enfants, puis tu l'as vécu en Suisse avant de t'en revenir ici, puis ma dernière question va porter sur ta dernière phase de carrière, justement. Tu sais, tu l'as dit, tu as fini ça à ta façon, là, en tes termes, puis t'es un gars fier, puis ça doit être vraiment quelque chose d'avoir le luxe puis l'opportunité de le faire comme ça, mais non seulement ça, tu sais, de finir dans un rôle important, t'as changé de ligue, mais dans une grosse ligue, dans un gros calibre en ligue suisse, de finir comme, tu sais, meilleur pointeur de ton équipe, de finir comme un joueur important pendant les quatre dernières années de ta carrière, en plus de pouvoir vivre puis t'épanouir avec ta femme puis tes enfants, qu'est-ce que ça représentait dans ta vie de hockeyeur, dans ta vie tout court?
Ben, c'est exactement ça, moi. C'est de dire, moi, je suis pas capable de jouer sur un quatrième trio. J'ai essayé, mais je suis pas capable. Faut jouer des minutes importantes. J'ai été capable de le faire, de terminer comme tu viens de le dire, comme ça. Puis c'est ça qui est important. Je suis super content. Puis en même temps, en Suisse, c'est ça qui était le fun, c'est qu'avec ma famille, tu passes de la Ligue nationale de partir 82 matchs, tu pars sur la route pendant plein de temps. T'es là, mais t'es pas là. Mais en Suisse, j'ai été comme capable de faire la transition, de dire ben j'étais à la maison, mais j'ai mon petit hockey aussi une fois de temps en temps, 52 matchs. C'est encore important pour moi de jouer, mais je suis là à la maison à toutes les soirs ou presque. Je connais la routine, puis quand je vais avoir terminé, ça va être un coup un peu moins dur de revenir à la maison.
Ben quelle belle décision que tu as prise. Je suis tellement content de t'avoir revenu. Vous faites tellement une belle famille avec Isabelle. Comment s'appellent vos garçons?
Victor et Adam.
Victor et Adam. Ben David, merci de ce temps. Je sens que t'es attendu, puis profite de la vie. Au plaisir de te revoir en personne éventuellement quand tu viendras faire un tour.
Ben c'est beau, merci Mario, très gentil, très apprécié, merci beaucoup.
Ben c'est toi qui es très gentil, merci de ton temps David. Salutations Isabelle, bye bye, merci.
Yes, parfait.
Bye. Bye. Après la pause, direction Détroit avec Danny Dubé. Non, non, non.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour les fidèles du sport.
Et retournons tout de suite à Détroit où nous attend Danny Dubé. Bonsoir Danny.
Salut Mario.
Manque d'engagement hier, tu l'as souligné après la rencontre. On en a vu davantage en troisième période. Quand l'entraîneur y va d'un entraînement qui n'était pas un entraînement punitif, mais un entraînement qui met sur l'intensité ce matin, il veut surfer ou il veut retourner sur ce qu'il a vu hier en troisième période pour demain, tu penses?
Peut-être, mais c'est surtout pour moi, Mario, le fait de replacer la barre des standards. Tu sais, les joueurs, il a été, après le match, il a louangé ses joueurs à Vegas, il a dit c'est le meilleur match que j'ai vu de cette équipe-là, etc. Les joueurs ont placé les standards. Tu l'as entendu dire ça. Et oui. Là, lui, ça lui donne une poignée. Lui retourne vers ses joueurs, il dit écoutez les gars, les standards, c'est ça. On était bien en dessous des standards. Comment il l'a amené? Est-ce qu'il a montré une vidéo? Est-ce qu'il a montré des séquences? J'en sais trop rien. Mais l'essentiel du message, c'est que on doit retrouver nos standards à l'entraînement si on veut être capable de les reproduire en situation de match. Puis nous, les bagarres le long des rampes, il faut être bien meilleur. C'est normal. Si t'es pas une équipe qui contrôle la rondelle comme les meilleures équipes de la Ligue, regarde là Jersey, qui est une équipe de contrôle de rondelle. Regarde contre également Tampa Bay, qui est une équipe de contrôle de rondelle. Comment le Canadien a été malmené? Alors, évidemment, si tu veux avoir du succès, il faut que tu les amènes le long des rampes et tu les empêches de contrôler la rondelle. À partir de ce moment-là, ben, faut que tu gagnes les bagarres.
Absolument. Et une belle opportunité de se reprendre dès demain contre les Red Wings. Une équipe aussi qui a passé à travers, évidemment, une transition de reconstruction qui semble prête à gagner sa part de match. Quel genre de défi attend le Canadien demain contre les Red Wings, selon toi, Danny?
Ben moi, ce que j'ai trouvé dans les derniers matchs contre les Red Wings, c'est que le Canadien se faisait défier beaucoup dans le fond de la zone. Les Red Wings vont travailler vraiment derrière les défenseurs demain. Écoute, ils ont quand même quelques joueurs gros format sur les trios 3 et 4. Ils ont de la vitesse sur les trios 1 et 2, donc ils ont un beau mélange, sont très bons à la défense. Fait que moi, je pense qu'ils vont vraiment défier le Canadien, surtout en fond de territoire. Qui n'est pas la même approche que le Lightning, qui a plutôt le Lightning avait une approche plutôt de fermer le centre de la glace puis de provoquer des erreurs. Et d'ailleurs, c'est entre les deux lignes bleues que le Canadien a perdu son match d'hier, vraiment avec les revirements puis les situations où ils ont perdu des rondelles le long des rampes, puis dans cette zone-là, qui est une zone critique. Là, si tu veux rester en unité de 5, tu peux pas échapper à rondelle quand t'attaques en zone neutre.
Bon, tu parlais de standards, Danny. En tout cas, j'espère qu'on va rehausser les standards pour les débuts de match. C'est sûr que le coach attend à ça. Là, comment faire pour mieux commencer les matchs pour les Canadiens?
Ben, la chose qui est importante quand tu commences un match, c'est qu'il faut que tu prennes le contrôle de la situation. Mais des fois, ce qui arrive, c'est que les équipes sont... Tu sais, quand le coach parle de pas être patient, c'est que le jeu, là, il se développe tout seul. Les choses arrivent. Il faut que tu sois prêt à réagir quand les choses arrivent. Quand tu es toujours en train de vouloir provoquer les choses, c'est là où tu forces des jeux, c'est là où tu fais des erreurs. Il faut vraiment que l'équipe ait plus confiance en elle et que cette confiance-là, ça se déploie par de la patience.
Exact.
Des fois, tu fais à croire que tu es patient, mais que tu es confiant, mais tu forces les jeux.
Mm-hmm.
Tu forces les jeux, tu n'es pas confiant. Tu essaies de provoquer quelque chose qui va te donner un résultat. Tout de suite, tu vas l'avoir à jouer 60 minutes. Arrête de vouloir avoir la réponse en première période. Tu vas l'avoir juste en troisième période, la réponse. Il faut jouer les 60 minutes. Je pense que c'est un élément qui est extrêmement important. Puis à l'intérieur de ça, il y a eu beaucoup de revirements, beaucoup de situations vraiment difficiles pour le Canadien parce qu'on a forcé les jeux. Puis je pense que c'est une équipe qui démontre que malgré les vétérans qui sont encore au sein de l'équipe, c'est une équipe qui manque de maturité.
Danny, je veux t'amener sur un sujet qui revient souvent dans les après-matchs, puis je pense que j'ai pas pensé de t'en reparler tant que ça. Il y a un soir que ça avait vraiment mal tourné, et là, je vais aborder le fameux sujet de la passe arrière. Tu sais, c'est le sujet facile au dépanneur, je croise du monde, au Rona, n'importe où, ouais. Puis hey, je suis tanné de voir, puis tu le sais comme moi, là, on regarde des matchs, c'est une équipe, c'est une ligue où on se copie quand il y a des choses qui fonctionnent. De nombreuses équipes font ça dans la ligue. Toi, est-ce que t'aimes la passe arrière en avantage numérique? Puis est-ce que c'est quoi ton opinion là-dessus? Tout le monde me parle de ça. Je pense qu'ils ont des plus gros problèmes à régler que la passe arrière, mais je veux t'entendre.
Ben en fait, la passe arrière là, c'est une juste pour peut-être expliquer à quoi ça sert là. Tu sais, la passe arrière, c'est comme pour avoir un effet accordéon. Tu comprends? C'est que les joueurs avant la passe arrière, c'était très, très efficace quand les équipes mettaient beaucoup de pression sur l'adversaire. Parce que là, tu amenais la rondelle, puis là, c'est comme si ça retirait à l'autre bout. Puis là, les gars, tout le monde était campé sur la ligne bleue. Quand tu es campé une fois sur ta ligne bleue, ben, tu es presque immobile. Le joueur qui vient de recevoir la longue passe de 30-40 pieds, là, lui, il arrive à 100 à l'heure. Donc, lui, il peut battre les joueurs en un contre un. Parce que quand on fait une barricade, c'est très difficile d'entrer dans la zone avec une passe avant la zone, tu comprends, avant la ligne bleue. Là, le joueur, lui, il peut traverser la ligne bleue, il va tellement vite, il peut traverser la ligne bleue, puis là, tout de suite après la ligne bleue, commencer à déployer l'avantage numérique. Fait que c'est sûr que ça a des avantages. Maintenant, ça a des inconvénients parce que c'est prévisible. Parce que tout le monde fait ça. Fait que tout le monde sait à qui va aller la passe.
Mm-hmm.
Fait que dans le fond, là, c'est plus important, c'est qui sa ligne bleue derrière toi. Qui est sa ligne bleue autour de toi, c'est pas important. C'est le numéro 14 qu'il faut surveiller.
Exact.
Tu vas l'avoir.
Exact. Fait que, il faut varier un petit peu plus, peut-être, puis être plus efficace quand on le fait, pour avoir un effet de surprise.
Oui. Moi, j'ai toujours aimé avoir, admettons, deux unités spéciales en avantage numérique, là, en québécois, deux powerplay.
Oui.
Mais deux unités, ils jouaient pas de la même manière.
OK.
OK. T'en avais une qui jouait pour amener du rythme. Donc, c'est qu'on appelait le shoot and crash, là, tu mets deux gars dans le même filet, les rondelles, c'était, tu pouvais pas faire plus que trois passes. Il fallait que le jeu, c'était, tu fais deux passes, à la troisième passe, faut que les joueurs attendent qu'elle soit au filet. Parce qu'il va y avoir deux joueurs devant le filet.
Puis des retours, puis oui.
À converger. Ben oui, c'est ça, exactement. Fait que là, cette unité-là travaillait sur les retours de lance et travaillait sur... Parce que, on va se dire les vraies affaires, là. Ta deuxième unité est moins bonne que ta première. Fait que les joueurs, par conséquent, sont moins bons.
Oui.
Ils sont peut-être meilleurs dans d'autres départements.
Oui.
Ils sont pas aussi bons en contrôle de rondelles, en gestion de rondelles, etc. Fait que tu te fais une unité de contrôle de rondelles, puis une unité plus de tireurs, ben déjà, tu vas avoir une variété. Après ça, ben là, l'entrée de zone, là, on a la fameuse passe arrière. Là, écoute, moi, je pense qu'à ce temps-ci de l'année, il y a personne qui veut... Ben, mettons que je suis l'entraîneur, je veux pas surprendre l'adversaire au mois de novembre. J'arrive pas avec une nouvelle affaire au mois de novembre. J'arrive avec une nouvelle affaire au mois de mars.
Tu comprends?
Parce que je me dis... Tu sais, là, il y a plein de monde qui m'auront pas vu, puis ils vont regarder les vidéos, mais ils seront pas sûrs parce qu'il va y avoir deux, trois options. Puis c'est ça la beauté du coaching. Tu sais, c'est ça la difficulté aussi. Parce que, comme tu dis, tout le monde se copie, puis c'est normal. Là, tout le matériel, tout est sur vidéo. OK, là, des surprises, il n'y a pas bien, là. À un moment donné, qu'est-ce qui cause la surprise? C'est l'imprévisibilité. Qu'est-ce qui cause l'imprévisibilité? Ben, c'est le bon joueur puis le talent parce que lui, il a plus de variété. Son coffre d'outils est bien plein. L'autre, lui, ben, son coffre d'outils, il est pas mal moins rempli. Fait que lui, il va mal tout le temps même affaire. Fait qu'il est plus facile à prévoir puis il est plus facile à contrer.
Ouais. Martin Saint-Louis aime la prévisibilité, mais je pense pas qu'il pense à son attaque massive quand il pense à ça. Peut-être en termes de production, mais pas de plan de jeu. Une petite dernière avant qu'on se quitte. Ah, j'écoutais les amateurs hier. C'est sûr, quand c'est un match qui tourne pas du bord du Canadien, les gens vont avoir un regard plus critique. Puis là, on va dire, ben, tel... Ça, on va être, tu sais, dans le langage de l'amateur, ben, ça va sortir comme, ben, lui, il se traîne les pieds, ou lui, ici ou ça. J'aimerais ça t'entendre dans ton œil d'analyste. Et je vais le tourner autrement. Qui tu penses peut vraiment donner plus? Si tu en vois qui peuvent vraiment donner plus, je parle pas de production but-part, je parle là, d'engagement.
Écoute, au niveau de l'engagement, c'est très difficile parce que je pense pas que les joueurs sont pas engagés avec le Canadien de Montréal. Je sens pas qu'il y a un joueur, pour dire, là, qui est, mettons, malheureux, puis qui fait la baboune ou quoi. Je sens pas ça. Est-ce qu'il y a des joueurs qui en donnent pas assez? Ben, écoute, on va te parler d'Armia, mais je veux dire... il y a le modèle parfait. Il est 6 pieds 2, 6 pieds 3 pouces. C'est un gabarit, c'est un bon patineur. Il est solide quand il a la rondelle. Mais tu sais, je veux dire, il est pas capable de faire arriver les choses. Pourquoi ça arrive pas? Ben, souvent, c'est une question de passion, c'est une question de détermination, de jusqu'à quel point le joueur va montrer de la compétitivité quand il se retrouve dans des situations à un contre un. Tu sais, c'est un joueur comme ça. Mais c'est un joueur de soutien qui est capable de t'amener des choses intéressantes, mais c'est pas le joueur que tu vas avoir sur la glace pour faire la différence dans le match. Faire la différence dans le match, t'as Anderson qui commence à être découragé, ça paraît dans son langage corporel. Ça, c'est sûr. Encore l'autre soir, là, il a serré le bâton à une ou deux occasions, alors qu'il avait peut-être la possibilité de marquer son premier but de la saison. C'est pas facile, là. Un gars qui a déjà marqué 30 buts, de pas en marquer, là. J'écoutais un auditeur hier après le match te dire il se traîne les pieds. Je t'entends dire, ben, je trouve pas qu'il se traîne les pieds, t'avais raison. T'sais, le monsieur a droit à son opinion, puis c'est bien correct. C'est pour ça qu'on
fait
une ligne web, pour qu'on se parle et qu'on échange. Mais honnêtement, écoute, des joueurs qui se traînent les pieds chez le Canadien, j'en vois pas. Des joueurs qui jouent pas bien, j'en vois. Hier, j'en ai vu beaucoup. Mais pour dire qu'ils font exprès ou qu'ils sont pas à bonne place là, mentalement, non. Ça je vois pas. L'année passée, j'en ai vu beaucoup. L'année passée, on en a vu beaucoup. Il y avait des passagers, ça c'est sûr. Pas cette année. Cette année, je vois pas ça.
Ben merci beaucoup, Danny, d'avoir ajouté ta voix à ma réponse hier à l'auditeur justement sur ce sujet-là. Bonne soirée et on se retrouve demain, bien sûr.
Ouais, puis on l'invite à continuer d'appeler le monsieur, là.
Ben oui, tout le monde a le droit de penser ce qu'il pense.
On a le droit de pas être d'accord.
Exactement, merci beaucoup, Danny. Bye-bye.
Bye-bye.
C'était Danny Dubé à Détroit.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
C'est 23.